Flux 4 de retour au festival Entrevue à Belfort pour la 30e édition. Voilà, donc mercredi 2 décembre, voilà déjà le troisième et dernier plateau de notre premier jour de festival. Myriam El Hadj est restée avec nous quelques minutes et Anna Maria Gomez nous a rejoint. Bonsoir Anna Maria.
Bonsoir.
Alors Anna Maria, vous êtes réalisatrice du film Antonio Lindo Antonio, qui est donc un moyen métrage qui précède le long métrage de Myriam El Hadj. Et si je vous ai demandé de rester, Myriam, c'est que il est vrai qu'on voit un pont très clair entre vos deux films, puisque même si chacun a son esthétique et son histoire propre, vous passez toutes les deux par le cinéma pour essayer aussi de saisir une partie de l'histoire de votre famille, puisque c'est bien l'une que l'autre, vous vous intéressez à l'un de vos oncles. J'aurais bien aimé en fait que vous me disiez comment est-ce que vous aviez découvert le travail de l'autre. Peut-être Myriam, comment avez-vous reçu le travail d'Anna Maria?
Moi, je cherchais déjà à me dire c'est quoi le point en commun. Et quand elle a présenté le film en parlant d'un oncle, je me suis dit, ah tiens, peut-être c'est ça le point en commun. Je ne sais pas s'ils font ça dans la programmation, si c'est conscient. Et moi, j'aime beaucoup ce film, en fait. J'aime beaucoup ce film parce que j'aime beaucoup cette recherche. Et c'est ça ce qui fait qu'il y a un cinéaste dans la famille. Quoi. Tu le vois tout de suite, c'est que le cinéaste dans la famille va aller creuser et chercher l'absence. Et chercher à comprendre l'absence de l'oncle et que les autres membres de la famille n'ont pas fait ça, quoi. C'est parce que tu as eu un regard un regard plus tendre de cinéaste et qui a voulu comprendre. J'adore cette recherche qui part au début du Portugal pour essayer de comprendre pourquoi il n'est pas là et comment il est perçu en tant que le mouton noir qui est parti. Et puis quand on va chez lui, c'est beaucoup plus simple, les choses sont différentes. Et j'aime beaucoup cette recherche qu'elle a fait et qu'il y a... je ne sais pas si elle a réconcilié la famille, non? Elle a réconcilié la famille?
Je ne sais pas si je peux... Si je dois trop en dire sur le film.
Mais on va rentrer aussi peut-être dans le film plus avant aussi pour donner des éléments aux auditeurs. Mais juste...
En tout cas, par rapport, au point commun qu'il peut y avoir entre nos deux films, effectivement, il y a l'histoire de l'oncle. Et puis, il y a l'histoire aussi des non-dits, je crois. Que dans ton film, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas dit.
Oui, c'est facile d'essayer de comprendre, toujours le monde, justement, essayer de comprendre les choses.
Oui. Oui, essayer de comprendre les choses, effectivement. Par rapport à la quête familiale, c'est ça que vous voulez dire? Oui.
Ok, très bien. Mais merci beaucoup, Myriam. À plus tard. Donc, Anna Maria, comme on le disait, vous êtes artiste et réalisatrice. Donc, vous présentez Antonio Lindo Antonio, qui signifie Antonio Bel Antonio. Vous êtes franco-portugaise, vous êtes diplômée du Frénois, qui est le studio national des arts contemporains basé à Tourcoing. Vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et de l'École des beaux-arts de Lyon. Dans Antonio Lindo Antonio, vous faites donc, comme on le disait, le portrait d'Antonio, dont on comprend au fur et à mesure du film qu'il est l'un de vos oncles. Et vous nous le racontez, vous nous le décrivez par son absence et surtout par ce qu'évoque de lui sa mère, donc votre grand-mère, ses frères, sa belle-sœur et aussi des personnes de l'entourage familial. Sachant que toute cette famille vit dans un Portugal très rural, ce sont des paysans. On comprend qu'il y a un vrai mystère autour de lui, autour de sa vie, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup d'incompréhensions. Parce que tandis que tous sont restés au village pour travailler la terre, lui, il est parti au Brésil il y a 50 ans et il ne donne guère de nouvelles. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film, Anna Maria?
J'ai eu l'idée de ce film. Antonio, en fait, c'est quelqu'un dont on ne parle pas dans la famille, dont on ne parlait pas, en tout cas, avant que je fasse le film. Et j'ai eu l'idée de faire le film... à l'enterrement de mon grand-père, où l'absence d'Antonio a été très pesante. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un oncle dans la famille, qui était en fait le premier enfant de ma grand-mère, l'aîné d'une fratrie de 9, donc quelqu'un d'important, et qui, à l'âge de 19 ans, a quitté le Portugal pour aller vivre au Brésil. Et donc, en 50 ans, on n'a quasiment pas eu de nouvelles de lui. Donc ma grand-mère attend son fils depuis 50 ans et son fils, quand elle arrive à la voir au téléphone ou quand il écrit, lui promet de venir. Mais bon, ces promesses, il ne les tient pas. Donc elle est très déçue et C'est presque une question d'orgueil pour elle que elle ne l'appelle pas parce qu'elle est trop orgueilleuse. Elle se dit que c'est à lui de l'appeler, donc elle prend pas de nouvelles. Donc en fait, on reste comme ça dans un grand silence en Portugal et le Brésil pour des questions presque traditionnelles, d'honneur.
Et alors, qu'est-ce qu'a permis justement le documentaire ? Qu'a permis ce film ?
Alors, encore une fois, j'ai peur d'en dire trop parce que le film a eu un véritable impact dans le réel. C'est-à-dire qu'au début, je voulais simplement raconter l'histoire de cette absence et faire le portrait d'une famille traditionnelle portugaise, confrontée à l'exil de quelqu'un, à l'émancipation d'un des enfants. Est-ce que ça suscitait en fait auprès de ceux qui étaient restés la jalousie, le sentiment d'abandon? Sachant que les personnes de la famille sont assez virulentes, même si elles sont très pudiques, mais on sent qu'ils sont assez marqués, touchés en fait par l'absence de leur frère ou du fils.
Mais alors en fait, vous disiez j'ai peur d'en dire trop, ça veut dire qu'il ne faut pas spoiler.
Oui, c'est ça.
D'accord, parce que alors moi je prenais vraiment ça comme un documentaire, donc je comptais spoiler. Donc très bien, nous ne spoilerons pas, mais donc ça veut dire que même si c'est un documentaire, vous l'avez aussi vraiment construit en suivant une trame narrative avec ce que pourrait impliquer une fiction justement.
Oui, parce qu'en fait il y a un cheminement. Donc j'avais l'idée de d'abord travailler à un endroit, puis après de suivre une piste pour aller ailleurs, mais je savais pas ce qu'allait devenir le film à la fin, et je pensais pas qu'il allait ouvrir en fait autant de, enfin qu'il allait être aussi, avoir autant d'impact en fait dans la réalité. Je pensais pas qu'il aurait autant d'impact. En fait, je pensais pas qu'un film puisse changer les choses, changer le cours des choses.
Mais alors, vous dites, je ne savais pas tellement comment le film allait avancer. À partir de quel moment est-ce que vous avez pris conscience aussi peut-être de l'ampleur, de la force de ce film ?
À quel moment ?
Oui. Enfin, c'était au moment de la réalisation, justement, ou c'est encore après coup ?
C'était au moment de la réalisation, oui. Oui, c'est en fabriquant le film, puisque finalement, je me suis laissée... je me suis laissée guider par les choses qu'on m'apprenait et par les possibilités que j'ai eues. Au début, je ne savais pas que j'allais avoir une production pour fabriquer le film, par exemple. Donc j'étais un peu en train de le fabriquer toute seule. Et puis en fin de compte, comme je voyais que ça prenait plus d'ampleur, je me suis dit qu'il fallait quand même avoir un soutien d'une production intéressante. Donc ensuite, le film a été soutenu par le GREC, qui est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, et par la SCAM également. Et donc grâce à eux, en fait, le film a pu aller plus loin. Et ça, c'était vraiment au moment de la fabrication du film, puisque j'avais commencé un petit peu à tourner, un tout petit peu, quoi, avant de le lancer dans la production réelle, avec une équipe et tout ça.
Mais alors, donc, en regard aussi de ce que vous nous dites sur le récit de Antonio Lindo Antonio, ça veut dire que le film, il est vraiment chronologique ? Il est intégralement chronologique ?
Oui.
Je vous pose cette question parce que c'est vrai que le voyant, quand on voit pendant toute cette première partie... toutes ces personnes qui sont face caméra et qui sont vraiment dans la désolation de ne pas avoir de nouvelles d'Antonio qui était beau, enfin qui en même temps avait apparemment énormément de qualité, mais on sent de la rancœur et puis on sent que quelque part peut-être Antonio serait un ingrat. On se demande aussi c'est vrai que moi, en voyant le film, je me suis dit, mais est-ce que vraiment ils en parlaient ? Est-ce que ce n'est pas à un certain moment où là, juste, ils commencent à en parler et vous auriez ramené de la parole sur Antonio dès le début du film ?
En fait, donc, c'est quelqu'un dont on ne parlait pas du tout dans la famille. C'est à partir du moment où j'ai décidé de faire le film que le mot Antonio même a commencé à résonner dans la maison. Avant, on n'en parlait pas. Et d'ailleurs, il y a un de mes oncles, enfin, c'est assez tôt dans le film, à qui je demande, mais on ne parle pas d'Antonio ici. Il me dit, mais si, on en parle. Mais non, on n'en parle pas. Voilà. On n'en parle pas. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est la réalité, on n'en parle pas. Et là, il hausse les épaules et puis on passe au plan suivant. Mais ça traduit vraiment la réalité. En fait, Antonio, il avait complètement disparu. Il avait sa place, mais il était comme un fantôme dans la maison. Et voilà, un fantôme qui était quand même
fauteuil, sa chambre.
Dans sa chambre, en fait, comme ils sont très nombreux, sa chambre, elle avait très vite été exploitée pour d'autres frères. Donc, il était là, mais comme un esprit. Il n'y avait pas de ses objets dans la maison, il n'y avait plus rien de lui.
Alors, dans ce film, au niveau des images, on pense vraiment dans sa facture qui est à la fois extrêmement maîtrisée et classique, dans sa façon de capter aussi une paysannerie qui est en voie de disparition, parce que cette vieille femme, cette grand-mère, c'est quand même aussi un peu un personnage qui est ancré aussi dans sa fierté, dans son orgueil, comme vous le dites. On pense à Raymond Depardon et à sa série, notamment sur Profil paysan. Est-ce qu'il y a des réalisateurs comme ça ou des films qui ont pu vous guider dans votre travail ?
Il y a des réalisateurs que j'aime beaucoup. Après, je ne sais pas, on est sûrement alimenté par des réalisateurs qu'on admire. Je ne saurais pas dire exactement. En tout cas, Raymond Depardon, j'aime bien son cinéma, mais on est quand même assez différents parce que moi, j'interviens beaucoup dans le film. Enfin, je suis,
dans Profil paysan, Raymond Depardon intervient un peu de temps en temps. Il relance.
D'accord, oui. Je dirais que moi, j'accorde quand même une place très importante à la caméra que je ne cherche pas du tout à faire oublier. Au contraire, je la mets vraiment face aux gens et j'attends qu'elle déclenche quelque chose. Tandis que Raymond Depardon, il me semble, au contraire, essaye plutôt de la faire disparaître et de capter quelque chose qui serait là sans la caméra. Alors que pour moi, la caméra, c'est elle qui déclenche. Et c'est peut-être pour ça aussi que le réel a été transformé. C'est peut-être parce que la caméra, elle a un rôle vraiment actif. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage la façon dont je travaille.
Et alors donc, quels ont pu être les travaux ou les réalisateurs qui ont pu vous inspirer, s'il y en a eu, ou d'autres personnes ?
Il y a des réalisateurs de films de fiction que je trouve admirables, mais je ne sais pas du tout si vous allez voir des parallèles, d'ailleurs je ne pense pas. Par exemple, il y a le film Hit de Paul Morisset que je trouve sublime, mais c'est assez loin de mon film, en fin de compte. Enfin, il y a un côté un peu piquant dans ce film-là, dans son film Hit. Que peut-être dans le mien, il y a peut-être un truc un peu piquant aussi, je sais pas. Il y a le film Close-up de Kiarostami, que je trouve sublime, absolument sublime, parce que justement, il transforme des choses dans le réel et qu'il y a une sorte d'acte de réparation à travers le film lui-même. Et je m'attendais pas à ce que ça puisse vraiment exister. En tout cas, ce film-là, Close-up, je le trouve ultime, je le trouve sublime, vraiment sublime. Excellent.
Alors, vous évoquiez le fait que la caméra est en action, enfin, va déclencher des actions. Là, vous parlez du fait que le cinéma peut transformer des choses ou peut produire un acte de réparation. C'est ça qui vous intéresse, justement, dans le fait de faire du cinéma ?
Je ne sais pas si c'est forcément de produire un acte de produire une réparation, mais en tout cas, c'est de déclencher des choses. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est que ça déclenche des choses. Qui est peut-être un jeu, en fait, soit une sorte de jeu avec le réel. Ça déplace quelque chose du réel. Ça me plaît, oui. C'est comme ça que j'envisage le cinéma, en tout cas. Comme quelque chose d'actif, quelque chose qui bouscule la réalité. Souvent à travers le jeu, d'ailleurs. Oui, parce que je ne sais pas si ça se sent dans le film, mais en tout cas, il y a quand même un peu de, il y a un peu de jeu, notamment... Enfin, je raconterai pas, mais il y a des scènes comme ça sur la plage où il y avait tout un dispositif qui permettait de déclencher des réactions, des gens qui sont filmés. C'était traité sur le mode du jeu, en tout cas. Je ne sais pas si ça se sent.
Oui, ça se sent, mais on ne peut pas en parler.
Enfin, à moins que... Enfin, je ne sais pas à quel moment est diffusée l'émission, mais si c'est au moment où tout le monde a vu le film, on peut en parler.
Florence ?
Est-ce que par rapport à cette question du dispositif et de l'action dans le réel, le fait d'être passé par les Beaux-Arts, par le Fresnoy, est-ce que ça influence aussi votre façon de procéder, de réaliser ce film ?
Alors je ne sais pas si c'est mon parcours qui influence le film ou si c'est plutôt l'inverse. Enfin, disons que j'ai fait ce parcours parce que c'est comme ça que je vois les choses ou que très naturellement en fait j'ai eu ce parcours-là. Enfin, c'est vrai qu'au début j'étais plutôt attirée par les arts plastiques et puis... Finalement, dans les écoles d'art, je faisais surtout de la vidéo et après, j'ai eu envie de faire plutôt du cinéma. Mais il y avait un cinéma qui reste quand même assez expérimental parce que c'est vrai que c'est un film documentaire, mais il y a une construction un peu, il me semble en tout cas un peu particulière sur cette notion de documentaire et de fiction. Oui.
Est-ce qu'il y a l'idée aussi du dispositif de diffusion ? Je pense que vous parlez de la vidéo, on pense donc au musée, on pense à un espace muséal qui est quand même un espace particulier. Est-ce que l'idée de rentrer dans la salle avec le grand écran, c'était aussi quelque chose que vous aviez à l'esprit quand vous êtes passé de la vidéo au film ?
Je m'en rendais pas trop compte, mais là, vraiment, en assistant aux projections, je trouve ça superbe. Je trouve ça superbe parce que le fait de regarder, qu'il y ait un public, donc plusieurs personnes en fait dans la même salle en train de regarder le même film, il y a une espèce de contamination en fait entre les gens, une réaction qui est hyper belle, qui est hyper belle, qui est puissante, je trouve. J'aime beaucoup, vraiment je trouve que le dispositif en fait cinématographique classique, il est vraiment vraiment intéressant. Ça me plaît.
Alors, vous le disiez, vous avez bénéficié d'une bourse j'ai oublié le nom de cette structure. Voilà, merci. Et en fait, donc en 2013, lorsque le film était encore en projet, il devait initialement s'intituler Le droit chemin.
Oui.
À quel moment est-ce que vous avez choisi de changer le titre et pourquoi ?
J'ai décidé de changer le titre au milieu du film parce que Le droit chemin, pour moi, c'était très théorique. Et c'est comme ça que j'avais écrit le projet, comme le droit chemin. Je me disais, tiens, c'est celui qui n'a pas suivi les rails, donc il n'a pas suivi le droit chemin. Donc il y avait cette idée-là un peu. Mais bon, finalement, je trouvais que c'était très austère et que le film, il a beaucoup plus de poésie que ça. Et que Antonio Lindo Antonio, en portugais on le dit comme ça, ça correspondait plus à l'émotion du film, je crois. Et puis c'est aussi le titre d'une chanson qui est au milieu du film. Enfin, ça, le spectateur ne peut pas savoir, enfin, sauf si on connaît bien la chanson, les musiques traditionnelles portugaises. Il y a une chanson qui marque vraiment le milieu du film, qui est jouée à l'accordéon par un de mes oncles, ma grand-mère est cadrée au centre. Et en fait, c'est la chanson Antonio Lindo Antonio, donc c'est un peu une chanson pour son fils. Je trouvais ça assez juste. Enfin, en tout cas, ça me plaisait d'intituler le film comme ça.
C'est une chanson populaire ?
Oui.
Et alors, donc, je le disais au début, vous êtes réalisatrice, mais vous êtes également artiste et plasticienne. Florence l'évoquait. Donc, vous faites du documentaire, mais vous faites également des vidéos, des photographies, des installations vidéo. Alors, dans tous vos travaux, est-ce que c'est le sujet qui détermine la forme, ou est-ce que c'est le médium aussi qui va vous amener à vouloir vous saisir d'un sujet ?
Alors, je crois que c'est le sujet qui détermine la forme, mais en général, c'est vrai que mes sujets demandent une forme filmique. J'ai envie de dire, la plupart du temps. Parce que mon médium principal est quand même le médium filmique. Qu'est-ce qui caractérise l'ensemble des projets ? Je dirais que c'est peut-être ce jeu avec le réel. En film, ce serait plus un jeu avec les gens dans le réel, et peut-être qu'avec les images, par exemple en photographie, il y a moins cette idée de l'interaction. Enfin, si, en fait, si, mais... Il y a plutôt l'idée d'essayer de trouver, disons, la fiction dans le réel, quoi. Qu'est-ce qui, dans la réalité, qu'est-ce qui, dans le réel, en fait, suggère autre chose que la chose elle-même. Je ne sais pas comment le dire, mais il faudrait voir les images.
Mais vous partez en tout cas souvent de personnes ?
Pour les films, oui.
Oui.
Oui, oui, puisque j'ai réalisé d'autres projets avant qui ne sont pas forcément des projets de films pour le cinéma, peut-être plutôt des expériences filmiques, des films expérimentaux, avec des personnes. J'ai notamment réalisé un film qui s'appelle Teresa au Frénois, qui est en fait un portrait d'une de mes amies. Voilà, d'ailleurs, c'est un portrait également en creux. En fait, quand on était adolescente, on s'était amusé à filmer ses rendez-vous amoureux parce qu'elle était... Et elle est très très belle et elle a beaucoup de charme et donc elle avait beaucoup d'amoureux. Et donc, adolescente, on s'était dit, tiens, on va tous les filmer, comme ça, ça fera un souvenir. Bon, 10 ans plus tard, j'ai remis la main sur la cassette et je me suis dit, ah là là, il faudrait faire un truc avec ça. Et donc, le projet, c'était de retrouver tous ces prétendants et de leur demander ce qu'ils pensaient de Teresa. Donc, il y a comme ça une parole qui circule de personne en personne et qui dresse le portrait de Teresa. Et finalement, en fait, elle devient très inaccessible parce que les gens disent des choses très différentes et assez contradictoires. Donc, ça, c'était un portrait.
Mais c'est intéressant dans ce que vous dites parce qu'on retrouve des systèmes qui sont à l'œuvre dans Antonio, Bel Antonio. Enfin, où ce sont d'autres personnes qui vont réactiver la mémoire réelle ou totalement imaginée et fantasmée d'une personne qui n'est pas là.
Oui, il y a quelque chose, effectivement, oui, qui peut faire penser à Antonio dans le dispositif, surtout parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le fantasme. C'est ce que les gens peuvent imaginer, c'est ce que les gens peuvent créer à partir de leurs souvenirs ou simplement à partir de leur imagination, oui. C'est la fabrication du personnage qui me plaît. C'est que finalement, on est en train de fabriquer quelqu'un qui n'existe pas. Et ça, c'est un travail de cinéma, je crois. Enfin, je sais pas, Parce que j'aime bien en tout cas que le spectateur, à la fin de, tous ces moments de parole, se fasse une idée du personnage, qui est un nouveau personnage, en fin de compte, qui n'existe pas.
Et là encore, je pense que pour les spectateurs qui verront Antonio Bel Antonio, ils reconnaîtront aussi une partie de ce processus-là, parce qu'on voit vraiment se façonner une sorte de personnage un peu mythique, enfin cet Antonio qui a à la fois tous les défauts et toutes les qualités au fur et à mesure du film. C'est la première fois que vous venez à Belfort, Anna Maria ?
Oui, c'est la première fois.
Et alors justement, en tant que jeune réalisatrice, qu'est-ce que ça représente pour vous de présenter votre travail dans un festival tel que celui-là ?
C'est hyper important. Déjà montrer le travail, c'est l'aboutissement de la fabrication du film qui m'a pris quand même pas mal de temps, au moins un peu plus de 2 ans. Et puis bon, le festival de Belfort est quand même un festival de très bonne qualité, donc c'est super quoi, c'est super d'être là pour rencontrer les gens, pour rencontrer le public. Parce que le public est quand même très fin et très sensible, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater, et du coup ça fait vraiment plaisir. Enfin, mais plus que le plaisir, c'est important en fait par rapport à ce que peut devenir le film, en fait, que de le montrer ici.
Alors, est-ce que vous connaissez aussi la suite de la vie de votre film ?
Pas encore.
Mais écoutez, on lui souhaite une longue vie. Merci en tout cas, Anna Maria Gomez, d'être venue nous parler de Antonio Bel Antonio, qui sera donc diffusé samedi avant trêve à 17h, voilà, de mémoire. Alors, FluxForce, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était le premier rendez-vous au Festival Entrevue pour la 30e édition du festival. Florence Andoka était là. Merci Florence, on se retrouve demain.
À demain.
Olivier Legras a réalisé cette émission. Merci beaucoup Olivier, à demain. Philippe Feyer est passé nous saluer. Merci Philippe, à demain. Bonsoir à tous.
FluxForce.
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 For Fever.
FluxForce.